Série de prédications sur la foi de Jacob. Nous avons déjà vu quatre séances sur la foi de Jacob, comment Dieu a pu intervenir pour le faire grandir. Et si je résume un peu l'histoire de Jacob, c'est l'histoire d'un combat. Il a connu plusieurs combats. Déjà, dès le sein de sa mère, avant qu'il soit mis au monde, il était en compétition avec son frère Ésaü. Il a aussi lutté par la suite avec son frère jumeau, Ésaü, pour s'emparer du droit d'aînesse qui lui appartenait. Il a ensuite lutté pour s'emparer la bénédiction d'Isaac destinée à Ésaü. Ça vous rappelle tout ça, hein? On avait déjà vu cela dans les autres dimanches. Et puis, nous avons vu aussi qu'il avait lutté contre Laban pour pouvoir survivre chez lui, lui qui était le maître de la tromperie. Là, il a compris ce que cela veut dire être trompé par quelqu'un, parce que lui qui trompait tout le temps les autres, il a enfin pu ressentir les frustrations, la colère d'un trompé. Et puis, il a aussi lutté contre Dieu, même s'il était attaché à Dieu au point de vouloir sa bénédiction, il n'était pas complètement brisé. Et puis, il a vraiment de nouveau rencontré Dieu à Peniel, au retour de chez lui. Alors, c'était la prédication de la semaine dernière. Daniel nous a parlé, que Jacob avait enfin décidé de revenir suite à des révélations de la part de Dieu pour rejoindre les siens. Et puis, surtout, le problème qu'il avait, c'est que comment rencontrer son frère Ésaü qui voulait le tuer. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il voit de loin arriver les 400 hommes avec son frère Ésaü. Il prend peur. Il est terrorisé. Et puis, qu'est-ce qu'il fait contre ça? Il prend une résolution de mettre d'abord des cadeaux pour apaiser sa colère. C'est assez il utilise encore des moyens humains. Et ensuite, il met d'abord la famille moins aimée, je dirais, les servantes et ses enfants. Ensuite, Léa avec ses enfants. Et ensuite, en dernier, Rachel et ses enfants. Et puis lui, dernière ligne, au cas où, si ça allait mal, il était prêt aussi à s'enfuir. Vous voyez un petit peu le caractère encore de Jacob qui n'est pas complètement changé malgré ses rencontres avec le Seigneur. Et puis, enfin, à Peniel, qui veut dire face de Dieu, il rencontre Dieu personnellement et il lutte avec ce Dieu qui était devant lui. Et Dieu va le frapper, plutôt, il va frapper à l'articulation de la hanche et Jacob devient boiteux. Il ne peut plus s'enfuir. Son dernier recours n'est plus valable. C'est ainsi qu'il est complètement brisé. Et aujourd'hui, nous allons voir donc le chapitre 34-35. Après la réconciliation avec Ésaü, il ne va pas le suivre à Édom où justement, tu peux lancer la carte, il ne va pas s'installer à Édom, mais plutôt à Sichem. Donc, vous voyez la carte d'Israël. Et est-ce que tu peux... c'est l'endroit où il va s'installer. Donc, il était tout en haut chez Laban. Là, c'est donc Sichem. Beersheba, deuxième point, c'est là où justement il était avant de partir chez Laban. C'est là où il était avec ses parents, Beersheba. Et alors que son frère jumeau, Ésaü, est installé à Édom. D'ailleurs, les descendants d'Ésaü seront appelés les Édomites. Voilà, un peu pour la géographie. Alors, il s'installe donc à Sichem, dans la terre promise, avec ses troupeaux. Et la vie de Jacob semble sourire enfin, puisque maintenant, il était un homme riche. Il était un homme stable, avec ses 11 garçons, il n'a pas encore eu le dernier fils, c'est Benjamin, à ce moment-là. Vous savez que Benjamin, lorsque Rachel met au monde Benjamin, elle perd la vie. Elle mourra à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'il a encore Rachel avec lui, avec elle, avec lui. Et voilà, et en plus de ses 11 garçons, il a une autre fille, Dana, etc. Au chapitre 34, il y a quelque chose de très grave arrive. Je vous rappelle que Léa avait enfanté tout d'abord quatre enfants. Vous vous rappelez les noms? Il y avait Ruben, Siméon, Lévi, puis le quatrième, c'était le descendant, enfin l'ancêtre de voilà, Judas, l'ancêtre de Jésus, Judas. Et ensuite, il a eu encore deux autres fils, Issachar et Zabulon, et Dina. Donc Léa avait six fils plus Dina. Donc cette Dina qui avait six frères, je ne sais pas si vous avez déjà eu des frères comme ça. Non? Ou un ou deux frères qui étaient très protecteurs? Non? Moi, j'étais très protecteur vis-à-vis de ma sœur. Mais lui, il n'avait pas seulement un ou deux frères. Il avait six frères, plus cinq autres demi-frères. Et puis un jour, donc, ils étaient installés à Sichem. Dana décide de sortir de sa tente, de son campement, du cadre familial, pour faire connaissance avec ce pays, avec les gens du pays. Peut-être pour faire connaissance, pour faire de nouvelles amies, j'en sais rien. Mais malheureusement, un événement très tragique arrive, c'est-à-dire qu'elle a été enlevée par le fils du chef de pays. Il l'enlève et il déshonore la tribu en couchant avec elle. Dina est victime d'un enlèvement sans consentement, puis le fils du chef de Sichem, non seulement après l'avoir abusé, il tombe amoureux. Enfin, c'est un peu drôle, mais en tout cas, il tombe amoureux de cette fille. La Bible ne nous révèle pas si cet amour était réciproque. C'est juste, en tout cas, c'est sûr que ce fils de chef de Sichem était complètement tombé amoureux de cette fille. Et donc, ce fils demande à Jacob la main de sa fille, donc Dina, en lui promettant beaucoup de dot pour, bien sûr, l'avoir, mais aussi pour faire apaiser leur colère. J'ai l'impression que ce fils du chef avait un peu de cœur quand même, car c'est vrai que dans la Bible, dans les personnages bibliques, il y a encore d'autres personnages que nous pouvons découvrir, comme le fils de David, Amnon, qui a abusé non pas une fille étrangère, mais sa propre demi-sœur. Voilà, il y a des choses qui. On parle beaucoup d'inceste en ce moment, mais voilà. Déjà à l'époque, il y avait de l'inceste. Donc, Amnon avait, après avoir abusé sa propre demi-sœur, il la déshonore et puis il a voulu savoir. Il n'a pas voulu rien voulu savoir après. Il était vraiment un homme irresponsable. Alors que ici, dans cette histoire, ce fils du chef du pays, il veut réparer. Il veut prendre sa responsabilité. Il veut. Et bien sûr, il est déjà tombé, bien sûr, il était tombé sous le charme de Dina. Il veut se racheter. Et d'après la Bible, c'était quelqu'un qui était considéré par les gens du pays et aussi par son papa. Imaginez la réaction des frères après avoir su cette histoire. Ils étaient vraiment en colère, en colère. Particulièrement Siméon, le deuxième de l'aîné, de Léa, et le troisième, Lévi. Ils étaient vraiment très, très en colère. Alors, après avoir entendu la proposition du chef de Sichem, ils disent, bah, nous, on peut pas vous accorder notre sœur, notre fille, parce que, vous n'êtes pas des gens convenables. Bah, c'est vrai que vous avez proposé des dots, de l'argent pour réparer, mais ça ne suffit pas. Il faut encore une autre chose, c'est-à-dire qu'ils soient circoncis, qu'ils deviennent comme nous. Parce que les gens de Sichem ont proposé à Jacob que, bah, de se mélanger, qu'ils forment un seul peuple. Et donc les frères, donc propose que c'était possible à condition que tous les hommes se fassent se circoncire pour pouvoir prendre Dina et aussi pour former un seul peuple. Je vous lis dans chapitre 34, verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, parce qu'après la circoncision, les hommes ne peuvent pas bouger vraiment, parce qu'ils souffraient. Les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frère de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils étaient très violents. Leur colère a entraîné aussi cette violence. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes les richesses, leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Vous voyez ? Quelle violence, non seulement tuer des gens, mais aussi ils ont pris leurs biens, ils ont volé et ils ont pris comme esclaves leurs femmes et aussi leurs enfants. Tout s'est passé seulement par les deux frères, Siméon et Lévi. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Au départ, quand ils étaient arrivés à Sichem, ils pensaient trouver la paix, ils pensaient vraiment trouver le bonheur, mais avec ce viol, et aussi avec cette tuerie commis par Siméon et Lévi, maintenant il ne sait plus quoi faire. Il a peur. Il a peur que les gens de ce pays se vengent contre sa famille, car si les Cananéens se regroupaient pour faire payer la famille de Jacob, ils pouvaient être vraiment très nombreux, donc capables de les exterminer. C'est pour ça qu'il est terrorisé. C'est vrai que dans sa vie, il a connu des moments de détresse. Vous savez qu'il a été pourchassé par son propre frère Ésaü. Il a connu aussi la tromperie de la part de son oncle Laban. Mais ils étaient tous de sa famille, son oncle et son frère jumeau. Mais ici, ce sont des étrangers. Et vraiment, ils étaient en danger de mort et d'extermination. Dans les autres fois, à chaque fois, Jacob prier. Il était à genoux. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ici, il ne prie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, parfois, dans la vie, il y a aussi des hauts et des bas. Vous n'êtes pas toujours au top de spirituel de votre vie. Même si vous avez peut-être 20 ans, 30 ans d'expérience, il peut y avoir des moments de faiblesse, des moments où on ne va pas bien. Peut-être à ce moment-là, il n'allait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que Dieu ne l'avait pas abandonné et que c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui lui parle. Dans le chapitre 35, voilà, Dieu dit, donc il parle à Jacob en disant, « Lève-toi, monte à Bethel. » Je vous rappelle que Bethel, c'est le lieu où Jacob avait rencontré Dieu pour la première fois. Il a eu un songe où les anges allaient du ciel sur la terre à travers une échelle. Donc, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Autrement dit, rappelle-toi ce que tu as déjà rencontré et rappelle-toi aussi la promesse que je t'avais faite. Dans le passé, on avait conclu un marché, ou plutôt une alliance. Je t'ai dit que j'étais prêt, que je suis prêt à te bénir. Je t'avais promis que je te donnerais à toi et à ta descendance, à ta postérité, cette terre, ta postérité, la terre. De plus, non seulement je bénis ta postérité, mais aussi toutes les familles de la terre seront bénis en toi et en ta postérité. Il y a une grande bénédiction qui était promise à Jacob. Et là, il est en train de dire, en disant, monte à Bethel, c'est rappelle-toi ce que je t'ai dit, rappelle-toi cette alliance. Vous savez, une alliance, c'est quoi une alliance? Une alliance, c'est quelque chose, c'est comme un contrat qu'on fait avec, entre deux personnes. Une alliance, c'est pas, ça veut dire qu'il faut un respect de la part des autres, l'un vis-à-vis de l'autre, il faut respecter ce contrat. Ce n'est jamais en sens unique. Il faut remplir sa tâche pour que ce contrat dure. Donc Dieu, en rappelant cette alliance, il veut que Jacob change et que toute sa famille aussi change et se purifie. Quand il dit, il demande à monte à Bethel, c'est il faut que tu changes, il faut que tu fasses un pas envers moi pour que tu sois transformé. Je ne sais pas si dans votre vie, il y a eu des moments où vous êtes monté à Bethel. Votre Bethel était où? Pour moi, personnellement, mon Bethel était les fois où je suis parti avec les jeunes dans les voyages missionnaires. C'est à ce moment-là que j'avais vraiment découvert le Seigneur. C'était à ce moment-là que j'avais vraiment entendu pour la première fois la voix du Seigneur à travers un songe. C'est à ce moment-là que j'ai pu vraiment aussi voir la vision du Seigneur. Et donc, pour moi, Bethel, c'était toujours dans tous ces voyages missionnaires où Dieu m'avait parlé. Et ça m'est resté dans le cœur. Et que c'était vraiment un lieu de ressourcement, un lieu où j'ai été restauré, j'ai pu grandir dans la foi. Alors, j'aimerais encore vous poser la question, où est votre Bethel? Est-ce que vous avez vécu cette expérience avec le Seigneur où Dieu vous a parlé? Hier, j'ai rencontré une dame avec qui j'ai pu vraiment discuter. Elle me disait, elle était venue une fois à l'église, elle me disait, vous savez, quand j'étais venu une fois dans votre église, j'ai senti la présence de Dieu. Et j'aimerais encore revivre cela. J'aimerais encore grandir dans la foi. J'aimerais que Dieu me transforme parce que je suis dans la galère et j'ai besoin de lui. Pour elle, Bethel était notre église. Peut-être pour d'autres personnes, votre Bethel était, et en ce moment, dans vos lieux de cellule, j'en sais rien, ou dans le groupe de prière, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que notre Dieu aimerait qu'on remonte à notre Bethel pour être des vrais adorateurs. Et là, il dit, dresse un autel, dresse un autel. Je vous rappelle qu'à l'époque de l'Ancien Testament, il y avait plusieurs sacrifices que les Israélites faisaient, pratiquaient. Enfin, ce sera plus tard, mais en tout cas, ils pratiquaient. C'était des sacrifices de reconnaissance et d'action de grâce, des sacrifices de réparation de culpabilité, des sacrifices de l'expiation, donc pardon du péché, sacrifices d'holocauste, sacrifices des offrandes de dons et d'offrandes végétales, etc. Autrement dit, en résumé, aujourd'hui, le Seigneur demande à travers, en demandant de dresser un autel, il veut dire que, juste une phrase, repends-toi, répare ce qui est à réparer, et surtout, devient des adorateurs, des vrais adorateurs que le Seigneur cherche, des adorateurs qui le louent en esprit et en vérité. Après avoir entendu cette phrase de la part de Dieu, Jacob est complètement transformé à Péniel. Ah oui. Et puis, il prend une décision importante pour sa famille. Maintenant, il est prêt à se purifier, non seulement lui, mais aussi sa famille. Et Jacob, maintenant, veut aussi que toute sa maison se débarrasse de leurs idoles domestiques. Car c'est vrai, encore à l'époque, à ce moment-là, Jacob et sa famille avaient en leur possession des petites statuettes qui servaient à la divination et qui étaient censées jouer un rôle protecteur comme les amulettes aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi que Rachel, en partant de chez son père, elle avait volé celle de son père, les amulettes de son père. Donc, cette superstition était une vraie croyance pour la famille de Jacob. Et là, il commence à changer. Il dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. J'ai l'impression que Jacob est en train de faire un vrai nettoyage de printemps dans sa maison. Alors, quel nettoyage de printemps devons-nous faire aussi, nous? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Est-ce qu'il y a encore des idoles à débarrasser dans notre grenier? Jacob les a enterrés. En fait, c'est comme s'il les avait jetés. Et c'était une réelle motivation pour lui et détermination pour montrer que oui, moi je veux abandonner avec les anciennes pratiques, pas seulement moi mais aussi toute ma famille. Avant peut-être ça lui gênait pas de faire des compromis avec certaines pratiques, mais maintenant après avoir entendu cette phrase de Dieu, monte à Bethel, là ça l'affecte. Et puis surtout il a besoin de lui encore, parce qu'il est vraiment, il sait que à tout moment, les gens du pays peuvent se mobiliser pour les attaquer, pour les tuer, pour les exterminer. Là, il pense vraiment qu'il doit mettre en ordre certaines choses. Et c'est la première chose qu'il fait, débarrasser les idoles. Et quand Jacob change, toute sa famille change. Si vous changez, si je change moi, les autres aussi peuvent me suivre. Je peux les influencer. En abandonnant les mauvaises habitudes, voilà, Jacob a pu entraîner toute sa famille dans la sainteté, dans la purification. Dans la purification. Changer de vêtements, c'est quoi? C'est comme s'ils étaient déterminés à se purifier, à ressembler le Seigneur qui est saint, trois fois saint. Quelles sont les mauvaises habitudes que nous devons abandonner aujourd'hui? Quelles sont vos addictions qu'il faut arrêter? Si Dieu nous dit « Monte à Bethel », obéissons à sa parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les gens de Sichem? On voit ça au verset 5. « Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. » Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. » Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, juste une phrase comme ça, pour dire que Dieu a fait en sorte que Jacob et sa famille soient protégés. Je ne sais pas comment il a pu agir, mais il a fait en sorte, il a dissuadé en tout cas, les autres peuples à les poursuivre. Voilà, Dieu utilise, ou en tout cas trouve une solution incroyable, miraculeux parfois, qu'on n'a même pas pu imaginer, pour nous protéger. Jacob arrive, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui était Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Voilà, donc je disais que les habitants du pays restent chez eux pétrifiés par la grâce de Dieu. Le clan maintenant arrive à Luz, le nom païen du lieu que Jacob avait déjà rebaptisé Bethel, la maison de Dieu. Et là, il change de nouveau le nom pour dire que ce n'est plus maintenant Bethel, mais c'est El Bethel. Ça veut dire le Dieu de la maison de Dieu. C'est un peu bizarre, c'est assez répétitif. Vous savez, à chaque fois, cela confirme quand même qu'on voit un petit peu l'état spirituel de Jacob. Il y a une certaine progrès spirituel de Jacob. Les noms, vous savez, ont une certaine grande signification et je pense que ça exprime un petit peu une certaine réalité spirituelle. Une réalité spirituelle. Et puisque Jacob a vraiment rencontré Dieu, là, il veut encore donner l'accent sur Dieu. El Bethel, Dieu, la maison de Dieu. Le Dieu, la maison de Dieu. Et à ce moment-là, dans ce lieu, Dieu lui parle, il le console, il le fortifie, il le restaure. Et il prend confiance en Dieu. Dans la vie, je vais conclure. Regardez la vie de Jacob. Nous, on pensait qu'après sa première rencontre avec le Seigneur, on pensait qu'il allait devenir un homme parfait. Mais on a vu que non, il n'était pas complètement transformé, brisé complètement. Malgré tout, Dieu le protège. Et il réalise son plan, sa promesse. Chez Laban, il a connu aussi des difficultés. Dieu encore l'a protégé, lui a parlé. Il a pu aussi partir de chez Laban, paisiblement, grâce à Dieu. Et puis on pensait qu'il n'allait plus avoir de problème, mais encore une fois, il a failli mourir. Il a failli mourir déjà avec son frère Ésaü, mais que Dieu a transformé son cœur en attendant. Et puis ici, par les gens du Cananéen, qui, après avoir commis des atrocités, Dieu les a quand même protégés, parce qu'ils avaient conclu une alliance, que sa postérité, justement, allaient devenir nombreux et surtout qu'ils allaient être bénis, qu'ils allaient devenir une source de bénédiction pour toutes les nations. Ça veut dire quoi, en fait? À travers leur postérité, Jésus allait naître pour le pardon du péché du monde entier. Que grâce à Jésus, toutes les nations seraient bénies. Grâce à Jésus, nous pourrions, alors que nous ne méritions pas ce pardon, Dieu nous aimera et puis nous purifiera par la foi en Christ. Et puis, à travers cette histoire, ce que nous pouvons voir, c'est que dans les moments difficiles, Dieu nous demande de monter à Bethel, d'entrer dans la présence de Dieu pour trouver la solution, pour être restauré. Encore une question que j'aimerais vous poser, quel est ce lieu, ce Bethel, qui vous fortifie, qui vous permet de retrouver la sérénité spirituelle? Ou bien, peut-être vous avez juste un mémoire, je ne sais pas, comme moi par exemple, qui a expérimenté quelque chose de très fort pendant le voyage missionnaire, mais je ne fais plus ce voyage missionnaire. D'ailleurs, j'avais tellement aimé ce voyage missionnaire que dans l'ancienne église, je partais chaque année avec des jeunes pour que même les jeunes puissent expérimenter ce genre de choses. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose de spontané ou ponctuel, je veux dire. Il faut que ça soit renouvelé chaque jour parce que Dieu veut qu'on entre dans sa présence tous les jours de notre vie. Il veut que nous soyons toujours avec lui pour découvrir sa solution, pour découvrir son plan, sa volonté. On voit en tout cas à travers cette histoire que malgré ce malheur, le Seigneur transforme en bien et surtout il ne nous abandonne pas. D'ailleurs, vous vous dites que c'est injuste quand même, parce que les gens sont morts de manière assez injuste. Les innocents sont morts. D'ailleurs, Siméon et Lévi seront, d'ailleurs, recevront une certaine parole qui ne sera pas forcément en lien avec cet événement plus tard, lorsque Jacob sera au point de mourir. Enfin bref, soyons vraiment dans sa présence et ne nous fions pas seulement aux souvenirs du passé, mais le Seigneur vraiment nous rappelle toujours d'aller de l'avant. Parfois, oui, on a besoin de se rappeler de ce qui s'est passé dans le passé, mais aussi aller de l'avant. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière.